un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est le deuxième épisode aujourd'hui de l'histoire de Sami, un des premiers jeunes à revenir de Syrie avant le 13 novembre 2015 et un des premiers à avoir été libéré après 7 ans et demi de détention dans une unité pour détenus radicalisés. On se souviendra, en l'écoutant, de la polémique autour des soi-disant cellules de déradicalisation et on pourra toujours avoir un doute sur sa sincérité si on veut. Mais dans son cas, ce qui est étonnant, ce n'est pas tant qu'il ait été désembrigadé ou pas. C'est qu'il dit ne jamais avoir véritablement adhéré à l'idéologie prônée par Daesh. Il arrive en Syrie en sachant à peine faire sa prière et il en part encore moins religieux. De cela, on pourra douter aussi quand on entendra la terrible vidéo de propagande qu'il a tournée pour Daesh et pour laquelle il a été condamné si lourdement. Mais on se souviendra aussi de ce que les experts comme David Thompson nommaient le djihad LOL, c'est-à-dire la Syrie vue comme une possibilité de partir vivre dans un certain confort, une ambiance de colo, vantée sur Internet à coups de selfie où, je cite, « la photo d'une glace à la vanille à Raqqa fait le même nombre de likes qu'un selfie avec une tête décapitée ». Sami a été condamné pour association de malfaiteurs en vue de commettre des attentats. Il a purgé sa peine et a eu envie donc de raconter ce qu'il a vu et vécu. C'est son récit, extrait de plusieurs heures d'enregistrement, que nous vous proposons d'écouter. De la Syrie à la France, où il rentre après avoir été, dit-il, accusé d'espionnage. Par Marine Vlahovic.
À aucun moment, mon frère, par exemple, n'a pu se dire « Je vais aller là-bas pour tuer des mécréants, je vais aller là-bas pour tuer des non-musulmans. » J'ai jamais entendu ce discours-là chez mon frère en France. Mais après, une fois qu'il est arrivé là-bas sur zone, en Syrie, du coup, bah, tout a changé. Presque 2 mois après mon arrivée, c'est là que je retrouve mon frère. Et là, on part au cœur de Raqqa. Il m'a fait faire un tour dans la ville, où là j'ai vu des vrais Syriens, dans leur commerce, à vendre, à manger. J'ai vu une vie. J'avais l'impression que j'étais dans un pays du Moyen-Orient, tout simplement. Un pays qui m'est inconnu, tu vois. Mais vu que j'étais au cœur de la ville et tout, c'était particulier. Donc là, mon frère me ramène là où il vit. Et là où il vit, en fait, c'est un quartier où il y avait plein de francophones. Donc des Belges, des Français, voilà, tout le monde se comprenait un peu dans ce quartier-là. Et si tu veux, il y avait un ancien hôtel, et mon frère avait une chambre là-bas. Même si l'hôtel est à moitié détruit par les bombardements et tout, j'avais l'impression d'être un peu dans un monde normal. Il n'y a pas des mecs dans la rue avec des dictaphones en train de crier, de dire « la charia c'est comme ça, c'est comme ça ». La réalité, hein. T'es posé avec des mecs, t'as l'impression que t'es au quartier, sauf qu'ils sont tous calibrés, ils sont tous sous kalach, qu'ils ont des camis, qu'ils ont des barbes, des cheveux longs parfois. Et le discours et l'idéologie, tu le vois que par les vidéos de propagande. Ça parle de guerre en mode normal. J'ai vu des mecs revenir de zones de combat, dégueulasses, ça se tapait des barres. Et je suis avec mon frère, il a des sous, je travaille pas ni rien. Je récupère mes affaires qu'on m'avait prises. Il me restait quelques sous. Je récupère pas mon passeport. Je récupère rien de mes papiers administratifs. Ils me disent t'inquiète pas, ils sont là, mais tu les récupéreras pas. Donc je récupère que mon iPad, voilà, mon téléphone. Et tu vois, le premier réflexe que j'ai, c'est là, dès la première connexion, je vais sur Facebook. Et là, je vais voir tous mes messages. J'ai plein de messages. Et là, je réponds un peu à tout le monde. Je donne des nouvelles, des signes de vie. Mais j'ai l'impression que je suis moi que quand je parle en message privé avec mes amis. Je sens que même dans ma manière de comment je suis habillé, je suis pas moi. Moi, j'étais le mec qui mettait des pantalons en tissu, des chinos, des petites chemises, des petits polos. Des petites paires de chaussures, des bottines. Ah, je suis en camisole claquette. Je suis pas moi. Je suis déguisé. Et moi, je faisais partie d'aucun groupe. Parce que mon frère, il était un peu en roue libre. Vu qu'il avait autour de lui des grosses têtes, c'est eux directement qui pouvaient l'appeler, lui dire « Viens, on va faire ci, on va faire ça, on va aller telle zone de combat. Lui pouvait vivre comme ça. Là-bas, tu as de l'argent que quand tu fais partie d'un groupe. Parce qu'il y avait des salaires quand tu faisais partie d'une katiba. Je crois que tu prenais un truc comme 50$ par semaine ou un truc dans le genre, tu vois. Pour nous, les katibas, là-bas, c'était un groupe de combattants avec un émir. Chaque katiba avait un émir. C'était des groupes. Mais moi, j'avais aucune rentrée d'argent. Et je vivais sur mes petites économies qui me restaient. Un peu avec les sous de mon frère aussi. Il me fallait des sous. Je connais des mecs qui font partie de Daesh qui fument. Je vends des cigarettes. Et donc, moi, en étant proche des Syriens, j'arrivais un peu à rentrer dans ce business-là, tu vois. Donc, ça commence par des trafics de cigarettes. Et je fais la même chose avec des armes. Je récupérais des armes et je les vendais à des civils syriens. Alors que c'est très risqué. Tu te fais attraper en train de fumer, tu te fais fouetter. Tu te fais fouetter et après ça peut aller plus loin. Si c'est des trafics, tout ça, tu peux aller jusqu'à la mort. Parce qu'on peut considérer ça comme de la corruption. Tu peux corrompre les gens à la perversité, au péché. Donc moi, je monte des fois le soir seul en haut d'un immeuble. Je fume à la belle étoile, tu vois. Je vais pas fumer comme ça en journée, pas du tout. Et quand ça m'arrivait de fumer le soir, pas très tard, alors que je sais que je vais ressortir après, c'était une douche, shampoing, musc. Fallait que mes affaires ne puissent pas sentir la cigarette, parce que sinon, c'est chaud, parce que ça pourrait me mettre vraiment en danger. Et mon frère s'est marié aussi, quelques mois après ma sortie des camps. Et un jour, il est venu me voir et m'a dit « Toi aussi, tu vas te marier. Parce que si tu te maries pas, en fait, on va être séparés. » Il m'a envoyé le numéro d'une femme. Elle était encore en France à ce moment-là, donc je suis rentré en contact avec elle, sur Internet. Elle était attirée par ce califat, par cet état islamique qui était en création. Elle est venue, on s'est mariés. C'est pas un lien amoureux. Je dirais plus, avec le recul, que c'est un lien de soutien. Parce que tu te rends compte qu'elle est venue pour le califat, mais qu'elle n'a pas retrouvé ce à quoi elle s'attendait. Du coup, elle aussi, elle n'est pas bien. Après un certain temps avec mon frère, surtout quand il se marie, je me marie, tu vois. Du coup, on n'est plus vraiment tout le temps ensemble. Je retrouve la situation conflictuelle que j'ai toujours eue avec lui. On s'entend pas, on s'entend plus. Par exemple, j'aime pas sa manière d'être, par exemple, avec certains civils. Tu vois, où des fois, je le trouve trop dur. J'adhérais pas à ça, en fait. À la dureté qu'il y avait là-bas. À tout ce qui était commis, tu vois. Tu peux pas punir quelqu'un après qu'il ait commis une erreur. En le tuant. C'est pas possible. C'est la terreur. Tu montes la terreur aux gens, tu vois. C'est le message qui est passé. Nous, on est des coupeurs de tête. Tu passes sur le rond-point, un rond-point connu à Raqqa, tu trouves des têtes sur des pics, tu vois. Les vrais combats, ils ont commencé quand ? En janvier 2015. À la frontière turque-syrienne. La ville, c'était Kobané. Entre les Kurdes du PKK et Daesh. Tu vois, là, ça a vraiment commencé. Mais avant ça, c'était assez calme. Et c'est même après le commencement de Kobané que oui, là, j'ai fait partie d'une brigade qui était la police militaire. C'est mon frère qui m'avait proposé ça. Il m'avait dit, c'est tranquille, on reste là, on est dans Raqqa. On faisait des rondes dans la ville. On surveillait des zones. J'étais équipé comme un soldat américain. Mon calibre, ma calage, j'avais tout. Et à côté de ça, bah, je préparais mon départ. Parce que ça faisait un bon petit moment que... Ça y est, j'étais pas bien. En fait, je commence à ressentir en moi ce que j'ai ressenti avant mon départ pour la Syrie. Je me sens oppressé. Je sais pas où je vais. Je suis perdu, tu vois, Et par tous les moyens, je cherche le moyen de partir. Et personne ne doit le savoir. Ceux qui essaient de quitter la Syrie début 2015, s'ils se font arrêter, ça peut être très très grave pour eux. Tu désertes. Et donc ça peut amener la mort. Mon frère a voulu partir en Irak, et je l'ai suivi. On allait récupérer des autorisations pour pouvoir passer les différents checkpoints. Bah, ils prennent nos objets électroniques, tu vois. Téléphone, tablette, ils surveillent tout, ils vérifient. Bah moi, ils sont tombés sur des messages. Messages Facebook, tout ça. Donc, on a fait le contrôle de tes tablettes, etc., de tes messages. Et donc, tu parles avec des mécréants, tu vois. Alors que tu connais la cause pour laquelle on se bat. On se bat contre les non-musulmans. Bref, ils me disent « Ok, tout, on verra. On verra ce qui va se passer pour toi là, pour la suite, quoi. » Et je suis surveillé. On m'en garde à l'œil, tu vois, on m'a à l'œil. Et ça, moi, je le sens. Donc, au bout de quelques semaines, je dis à mon frère, ça, il faut qu'on se barre d'ici. Lui me dit « Vas-y, on va faire la demande et tout pour repartir en Syrie. » Parce que c'est ça, tu prends pas ta voiture et tu pars comme ça. Non, faut qu'il prévoie des transporteurs, etc. C'est compliqué. Et quand on part, il nous donne une enveloppe. Il dit « Ouais, quand vous arrivez à Raqqa et tout, vous donnerez ça à l'émir de Raqqa. » On fait tout notre chemin. Long, désert, bref, misère jusqu'à Raqqa. On va se présenter là-bas. Mon frère lui donne l'enveloppe, il dit « Tiens, ils nous ont dit de te passer ça et tout. » Et il lui a dit qu'en fait, cette enveloppe-là, c'était le rapport d'une enquête qui avait été menée sur moi. C'est un soupçon d'espionnage. Parce que je parlais avec des mécréants. J'avais jamais prêté allégeance à l'État islamique. Et quand tu prêtais allégeance, t'étais enregistré dans des registres. Donc, ils me disent « Faut que tu prêtes allégeance. » Et donc là, dans votre quartier, il y a le vidéaste qui va passer, il va prendre plein de mecs en vidéo. Et toi aussi, tu vas parler. Ils se disent, bah, s'il fait ça, jamais il va penser à partir. C'est pas possible. Il est là, il est avec nous. Et en janvier 2015, donc je suis apparu dans une vidéo de propagande pour Daesh, après les attentats de Charlie Hebdo.
À vous, mes frères, subhanallah, continuez dans cette voie-là. Wallahi, les frères, Allah Azza wa Jal, il va vous récompenser pour tout ce que vous faites.
Avec cette vidéo-là,
voyez un policier, tuez-les.
J'ai peut-être poussé des gens,
tuez-les tous, tuez chaque coupable.
Soit à partir en Syrie, soit à essayer de commettre quelque chose ici, en France. Et j'y ai pensé pendant très longtemps. De me dire que moi, je peux avoir une responsabilité sur un mal qui est commis. Ça me meurt de moi.
France Culture. Les pieds sur terre.
Moi, à ce moment-là, je suis déjà dans le départ dans ma tête. Je suis dans la préparation. Je suis parti fin février. Donc, je suis dans le départ déjà. Mon ex était enceinte de 3 mois peut-être. Je dis mon ex parce que depuis on s'est séparés. Donc pendant que j'étais en détention. Ah, c'est sûr qu'elle aurait jamais pu sortir sans moi. Elle aussi, elle avait très envie de partir. Sa famille aussi lui demande de revenir. Comme la mienne. Et donc on est partis tous les deux, on a quitté la Syrie. J'ai quand même prévenu mes parents avant que j'allais rentrer. Mais voilà, je leur ai dit, ne dites surtout rien à Yacine, quoi, à mon frère. Et je lui ai tout caché, je lui ai caché toute ma préparation, tout. Et donc j'appelle mes parents quand je suis dans le car. Je leur dis que ça y est, j'ai bien passé la frontière et que je suis en Turquie. Je leur dis, bah, ça y est, vous pouvez le dire à Yacine maintenant. Et je sais que mon frère, à ce moment-là, il y croit pas, tu vois. Il va jusqu'à là où j'habitais. Et il voit que je suis plus là. Il a vraiment pété un plomb. Il était en colère. Directement, son premier réflexe, c'est de m'appeler sur WhatsApp. Le message qu'il me dit, c'est... Je vais t'envoyer une équipe. Ils vont venir te récupérer, ils vont te ramener en Syrie. Ils vont tuer ta femme sur place. Bon, après, je mets ça sur le dos de la colère. Je préfère me dire ça. Et je me rends au consulat français. Place Taksim à Istanbul. Je leur dis, écoutez, voilà, j'étais en Syrie, je m'appelle comme ça, je suis telle personne. Donc maintenant, je veux rentrer en France. Dites-moi comment ça se passe. Ils sont choqués, tu vois, ils ne s'attendaient pas du tout à ce que des gens... Et à ce moment-là, il n'y a pas encore de... Il y a eu des revenants, mais... Ah, je pense pas qu'ils aient emprunté en tout cas le même chemin que moi. Et après ça, ils me disent, bon bah... On va faire une demande de laissez-passer. Ils doivent me faire un espèce de laissez-passer parce que j'ai pas de papier. Et donc prévenir les autorités françaises. Ils me disent, bah, repartez à l'hôtel où vous étiez. Et on vous recontacte. Je suis resté comme ça plusieurs jours. En attendant leur retour. Voilà, jusqu'à être envoyé dans un centre de rétention. Jusqu'à avoir le laissez-passer. Et après, j'ai été expulsé de Turquie. Direction Paris. Je pense pas au fait de pouvoir retrouver ma vie d'avant en revenant en France. C'est pas ce qui me passe par la tête. Je sais que je vais devoir passer par la prison. Je me dis juste que je vais être dans un état de droit. Et donc, on atterrit. La police est là, elle m'attend. Bon, ils font les durs. Ça, je le comprends pas trop parce que c'est limite si je les laisse m'arrêter. Ils me mettent une cagoule sur la tête, un masque pour que je voie rien, tu vois, un peu en mode des mecs armés jusqu'aux dents autour de moi, fourgonnette noire, vite teintée noire. Et là, bah, je me retrouve dans les locaux de la DGSI. Et donc là, garde à vue, interrogatoire. Un avocat commis d'office me dit, écoute, je connais pas ton dossier, donc tu ne réponds à aucune question. Je lui dis ok. Après avoir été interrogé par les services à Levallois, ils m'ont envoyé à la prison de Fresnes. Donc je suis dans un fourgon, et donc on traverse Paris. Je passe au bord de la Seine, j'ai les lumières un peu... jaune, des lampadaires et tout, et ouais, je vois Paris la nuit. Et là, j'ai cette image et je me dis, putain, c'est magnifique. Et j'arrive en pleine nuit, la prison est silencieuse. Le grand portail s'ouvre, et moi, le monde de la prison, je le connais pas. Je finis dans une unité dédiée. Si t'es dans une affaire terroriste, tu passes par cette unité dédiée, qui est censée évaluer ton niveau de radicalité religieuse, donc dans ta pratique de la religion islamique. Ce que les chefs et ce que l'administration pénitentiaire utilisait comme terme, c'était les PRI, prévenus radical islamistes. Pour eux, j'étais un terroriste. Terro. Tu vas dire terro, c'est pour rendre le truc un peu plus... qui fait moins peur. Terroriste, tout de suite, tu vois, c'est le mot dur. Tu penses à Ben Laden, tu penses au truc vraiment hard. Et là, quand tu dis terreau, bah, ça va, c'est plus gentil, c'est plus petit, c'est plus. C'est moins grave, déjà. On est isolé. On est isolé du reste de la population carcérale. C'est pour éviter que le message terroriste, le message islamiste puisse se propager dans la prison. Tu vois, il y a des mecs qui étaient avec moi, qui étaient un peu des mecs lambda. J'ai trouvé des mecs avec qui je m'entendais super bien. Et à aucun moment tu nous aurais entendu parler de religion. Des fois, c'était le débat sur l'émission de Secret Story qui s'est passée aujourd'hui. C'est des mecs, moi, qui étaient en unité dédiée avec moi, qui m'ont fait découvrir Cyril Hanouna. Et après, ce serait te mentir de te dire qu'il n'y avait que des gens innocents en prison. Tu vois, des mecs, ouais... Ils ont fait des trucs. Il y a des mecs qui cachaient pas du tout aussi leur pratique. Voilà, une servante va venir parler avec lui, il va pas la calculer, il va pas parler avec elle, il la regarde même pas, parce que c'est une femme. Donc il y a de tout, il y a un mélange de tout à ce moment-là dans cette unité dédiée. Et il y a moi aussi, du coup. J'ai 19 ans, 20 ans, je me trouve pas du tout à ma place. J'accepte pas le terme radicalisé, ou qu'on puisse m'associer à ça. On l'a jamais, pour nous, c'était un terme qu'on entendait surtout aux infos. Faut déradicaliser les gens. D'autres qui te disent on peut pas déradicaliser quelqu'un. Pendant ma détention, on m'a accusé de cacher. Pas, le procureur m'a accusé en pleine face de. Voilà, il me disait que je jouais un rôle. Et moi, je lui disais, si je joue aussi bien, je mériterais un Oscar, tu vois. Je mériterais vraiment une récompense. Si pendant des années, on arrive à tenir un rôle comme celui-là, chapeau. Une journée type, c'est 1h30 de promenade dans la journée. Et voilà, après c'est une journée type, t'es en cellule. Tu t'occupes. Donc tu lis, tu regardes la télé. Et après, quand t'as des téléphones, t'es sur ton téléphone. Bon, dans le régime où nous on était, c'était quasiment impossible d'avoir des téléphones. C'était en tout cas très compliqué, tu vois. Moi j'ai pu avoir un téléphone. Bon, c'est un téléphone de la taille d'un doigt. Tu vois que les détenus connaissent bien. Mais voilà, c'est ma fenêtre sur l'extérieur à ce moment-là. C'est ma petite liberté. Et les premières choses, les premiers rendez-vous en tout cas que j'ai pu avoir, c'est avec ma SPIP, donc ma conseillère d'insertion, qui après, par la suite, m'a présenté un éducateur et une psychologue. Donc c'était les trois personnes que je voyais le plus avec mon avocate. Jusqu'au jour où est mise en place une activité avec un médiateur religieux. Donc c'était un peu du débat, toutes sortes de sujets. On a pu parler de Martin Luther King, on a pu parler de religion musulmane. Et parce que moi, à ce moment-là, je connais pas grand-chose. Moi, ma religion, je l'ai vraiment appris en prison. Et à côté de ça, j'avais un petit trafic en prison. Voilà, je vendais des cigarettes. J'ai fait du trafic de clopes en Syrie. Je suis un commerçant, moi j'ai toujours évolué dans le commerce. La vente, c'est mon truc. On est en prison, c'est un autre monde, il y a une autre économie. Le week-end, tu peux vendre un paquet jusqu'à 50 euros le paquet de cigarettes. La semaine, c'est les deux paquets 50 euros. Donc t'es là, tu fais plus de 150 euros de bénéf sur une cartouche de cigarettes. Bah moi, je mettais une partie de l'argent de côté, une autre qui me servait de mandat pour réalimenter un peu le magasin. Et c'était mon petit commerce, mon petit business. Je me voyais pas demander à ma mère chaque mois ou à mes proches, envoyez-moi des sous. La prison, c'est la débrouille, t'as pas le choix. Donc j'ai plus de nouvelles avec mon épouse à ce moment-là, qui est devenue mon ex-femme. Elle est libérée, elle, à ce moment-là, après la garde à vue. Et au-delà de ça, il y a aussi des problèmes. Donc j'ai dû mettre fin à cette relation. Mais je deviens papa. Le 2 août 2015, j'étais là, j'étais à fond sur tout ce qui est missions, les maternelles, pour essayer de prendre des infos sur le rôle de parent, de père, parce que c'était un peu flou pour moi. Et du coup, après, plus jamais de nouvelles de mon frère. On s'est parlé une seule fois, je crois que c'était en 2016. J'appelle mes parents comme je le faisais d'habitude. Et ils me disent, on parle aussi avec ton frère en même temps. Un peu plus d'un an est passé. Et entre-temps, il a eu un enfant. Donc mes parents rapprochent le téléphone, les deux téléphones en fait. Ils les mettent l'un à côté de l'autre, tu vois, en mode haut-parleur. Je dis, Salam, ça va, tu vas bien? Il me dit, ouais, ça va, et toi? Je dis félicitations pour ton enfant. Il me dit ouais, merci toi aussi pour ta fille. Je suis toujours avec les gars là-bas. Il me dit ouais, il y a un tel qui est mort, un tel qui est mort. Voilà, ça, franchement, la conversation, elle a dû durer une minute trente. Et c'est le dernier contact que j'ai avec mon frère. Jusqu'à qu'on apprenne son décès. En 2017 à peu près. D'après nous, les infos qu'on a eues, c'est que il avait participé à une bataille, qui était la bataille de Raqqa. Donc après, on n'a pas eu d'explications vraiment exactes. C'était un peu, mais en tout cas, on sait qu'il est déclaré décédé. J'ai des larmes qui tombent un peu. Et c'est compliqué, tu vois, de vraiment réaliser le truc quand tu vois pas de corps, quand tu connais pas vraiment les circonstances, quand t'as juste des paroles vagues. C'est difficile, tu vois. Je suis jugé en 2018. Donc moi j'ai l'impression que c'est le procès de mon frère qui est pas là. J'ai honte de l'affaire pour laquelle je suis jugé. D'être accusé d'association de malfaiteurs en vue de commettre un acte terroriste sur territoire français. À chaque fois que je vois un acte terroriste, un attentat qui se passe en France, je ressens une part de responsabilité en moi, tu vois. J'ai pu faire du mal à des gens. En leur mettant de la crainte en eux, etc. Mais je leur ai jamais fait de mal. J'ai pas de sang sur les mains. Et un jour, je suis libéré au bout de 7 ans et demi de détention. J'étais avec une femme. Pendant les... quasiment les deux dernières années de ma détention. Et c'est un ami marseillais qui lui... voilà, avec des amis qui ont fait que ça, on s'est rencontrés, elle et moi. On est H24 au téléphone ensemble, on est tout le temps au téléphone ensemble, parce que j'ai mon portable avec moi aussi. Mais deux jours avant ma sortie, je reçois un appel où je l'entends en larmes. Elle me raconte, elle me dit, voilà, ma famille est au courant, et toi et moi, ça va pas être possible, personne ne l'accepte. Donc je savoure pas déjà ma sortie parce que j'ai le cœur un peu brisé, tu vois. J'ai le cœur brisé, pas qu'un peu, j'ai le cœur vraiment brisé. Mais j'arrive à me débrouiller. Et depuis, j'habite à Marseille, j'ai trouvé un appartement. Et je devais pointer tous les jours, tous les matins, à 8h au commissariat, donc du lundi au lundi. J'ai aussi une obligation de travailler dans mon contrôle judiciaire, donc j'ai élargi les dates sur mon CV. Et après, le seul trou que j'ai laissé, je disais que c'était le Covid. Bah après, j'ai fait des démarches aussi administratives qui font que j'ai changé de nom. Et c'était ouais pour que, voilà, quand on demande mon nom, si on tape sur internet, il n'y a rien quoi. Ça me plaît d'être dehors, mais c'est dur d'être dehors. Parfois, je me sens pas forcément normal. Surtout quand on est là, dehors, livré à nous-mêmes. Et qu'on doit tout faire pour s'en sortir, donc il y a cette pression-là, qui est sur nos épaules de se dire, putain, j'ai passé toutes ces années en prison et aujourd'hui je dois tout faire pour vite redresser le bateau. J'ai envie d'être quelqu'un de bien dans ma vie. Bon, j'ai envie d'avoir des problèmes, tu vois, mais des petits problèmes. J'ai été frappé déjà par un tsunami et aujourd'hui, non, je veux que des petites vagues, tranquilles. Avoir une vie normale.
C'était Le Terreau, deuxième épisode, un reportage de Marine Vlaovic réalisé par Somaya Dabesh. Merci à Samy, à Maître Blandine, Vec de Terris, à Philou et à Julie. C'est Céline Paris, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Rita Ruggirello, notre stagiaire.
بالبسة عيناه ويحيل نصف أحياء ما عصبها ما أحلاه.